Bienvenue dans Cast, une série de rencontres audio en toute intimité avec les personnalités qui font la mode d'aujourd'hui. Avec Nicolas, si on a décidé de lancer ce format, c'est pour vous dévoiler les dessous d'une industrie bien souvent idéalisée et vous entraîner avec nous dans les coulisses de la mode. Cast, c'est un peu comme une place en first row qu'on vous offre pour découvrir tous les visages et tendances de l'industrie. À travers le parcours de nos invités, des dirigeants, des mannequins, des designers et des talents en tout genre, nous aborderons sans tabou, et j'insiste bien sur le sans tabou, toutes les thématiques qui touchent l'univers de la mode.
I do not want to comment.
Je me suis donné toutes les réponses dont j'avais besoin.
La Fashion Week ?
Ils se mettent sur le trottoir, les fashion.
It's fashion art.
It is. Fashion is hard work, gritty, it's not glamorous.
Ok, you know now, les dés sont jetés. It means like, what can happen, you know.
That's all.
Aujourd'hui, on reçoit Emma, une des trois fondatrices derrière la marque Mlot. L'idée phare derrière le label, c'est l'upcycling, c'est-à-dire récupérer des tissus non utilisés par les marques de luxe pour les transformer en collections ultra limitées. Bonjour Emma.
Bonjour. Hello Emma. Hâte d'en savoir plus sur la marque, sur vous, sur les projets qui arrivent pour la suite aussi d'Mlot. Avant qu'on commence, Mlot, je prononce bien.
Ça, c'est une bonne question. Alors, Mlot, tout le monde le prononce n'importe comment.
Un petit peu.
Mais je crois que c'est ça qui fait aussi le charme de ce nom.
De la marque.
Et de la marque. C'est qu'à chaque fois que quelqu'un m'en parle, les gens disent umlaut, umlaut, umlaut.
Et ben, c'est l'occasion du coup d'expliquer ce qui se cache derrière le nom.
Exactement. Donc, nous, on le prononce personnellement Mlot. En allemand, ça se prononce plus umlaut. Donc, en effet, c'est un mot germanique, mais qui est utilisé en anglais, qui veut dire tout simplement tréma. Pourquoi on est arrivé sur ce tréma? C'est parce qu'en fait, à la base, très vite, on a eu ce questionnement sur ces tissus abandonnés, comme vous avez expliqué juste avant. En fait, pour raconter depuis le début, surtout mes coéquipières Héloïse et Zélie ont travaillé beaucoup dans des stages dans des maisons de luxe comme Louis Vuitton, Jacquemus, j'en passe. Et en fait, très vite, elles se sont rendues compte qu'il y avait souvent des tissus qui étaient non utilisés, parfois abandonnés, jetés à la poubelle, ou alors parfois, dans les meilleurs des cas, donnés à des écoles, mais souvent, c'était des tissus qui allaient vraiment jamais servir,
être détruits. Ouais,
du gâchis.
Du gâchis. Et on parle quand même de tissus de luxe, des sublimes soies, des sublimes tissus. Et on est venu de ce constat en disant mais c'est juste insupportable de voir ces si beaux tissus abandonnés alors que il y a plein de choses à faire avec. Mmh. Et quand je dis des chutes de tissus, c'est quand même parfois des métrages quand même assez conséquents, ouais, qui peuvent largement permettre de faire une collection.
Oui, oui, on se parle pas d'un petit bout de chiffon.
Non, malheureusement non.
Sûr.
Heureusement pour nous, mais malheureusement non. Et on a décidé de les utiliser. Et en fait, donc Mlot veut dire transformation, la transformation phonétique. Donc pour nous, c'était aussi la façon d'expliquer que on vient transformer des tissus abandonnés pour leur donner un peu une seconde vie et pouvoir en faire des vêtements de haute couture de notre marque.
Donc vous partez de ce constat, justement, donc il y a tous ces tissus qui sont abandonnés. Vous trouvez ça vraiment révoltant et du coup vous êtes déjà sur une idée de marque peut-être, et où c'est vraiment ce constat qui vous fait lancer la marque?
Bah, alors en fait, on est sorti, mais c'est bien de le préciser aussi, on est sorti de l'école il y a très peu de temps. On est très jeune, on a 25 ans, et en sortant de l'école, on avait déjà cette idée de base, chacune de notre côté, de vouloir créer une marque, un studio, enfin quelque chose de vraiment qui est à notre nom et à nous. Et très vite, on s'est demandé comment on pouvait créer une marque ensemble, mais comment aussi utiliser donc notre expérience et notre expertise, parce qu'en effet, on avait du coup ce constat de tissus abandonnés. On s'est dit, mais en fait, juste la marque, elle est là. Ces tissus, on sait comment les récupérer, on connaît les gens pour, on connaît les institutions qui peuvent nous aider, donc tout est juste parfait et là pour pouvoir créer vraiment nos vêtements à partir de ces tissus abandonnés. Donc à partir de ce constat-là, très vite on a commencé à dessiner, on a commencé à se concerter et à réfléchir à une première collection.
Et ça, c'était quand du coup?
C'était il y a environ un an.
Ok.
Il y a un an, oui c'est ça, il y a un an on
donc
a commencé.
Juste à la sortie de l'école quoi.
Ça faisait déjà un an et demi qu'on était sortis de l'école, ouais, donc très tôt. Et on a commencé à se retrouver, à en parler, et très vite on s'est dit, ok, on a ces tissus de base, on avait déjà des tissus en fait récupérés, comment on va pouvoir créer. Et c'est ça qui est super, c'est qu'on crée en fonction aussi des tissus qu'on trouve. Donc par exemple, on trouve, je dis n'importe quoi, à 6 mètres de soie bleue. Mm. Ok, comment on va pouvoir, en fonction de cette couleur, l'utiliser pour nos robes. Donc ça qui est super, c'est qu'on a un mode de fonctionnement qui est complètement l'inverse des autres marques, qui est normalement, on conçoit une robe, on a déjà une gamme de couleurs, et les choses...
Et on source.
Et on source. Nous, c'est l'inverse. On source, et après, en fonction de ce qu'on trouve, on fait nos vêtements, nos robes à Maya, qui sont pour le moment les plus connues, et à partir de là, on peut créer.
Vous êtes vraiment en mode agile, fonction de l'offre que vous avez en tissu, vous adaptez. Du coup,
exactement,
ça stimule vachement votre créativité, donc
exactement,
vous allez devoir constamment se
exactement
réinventer.
Il faut toujours se réinventer et toujours se laisser ouvrir à de nouvelles couleurs, de nouveaux tissus, et c'est ça qui est super. Et en même temps, ça nous offre aussi l'opportunité de pouvoir faire, par exemple, des pièces uniques. Mm. Par exemple, on avait une robe bleue, c'était la seule qu'on a faite. Et en même temps, on est très heureuse de pouvoir dire à nos clientèles parfois, bah voilà, cette robe, tu seras la seule à la porter, et il y a que toi qui peux la voir, et ça offre quelque chose de très exclusif aux clients.
Bien sûr,
et
les clients adorent ça.
Et les clients
c'est
adorent.
Argument, surtout avec
oui,
la fast fashion.
Bien sûr.
Tout le monde qui s'habille pareil avec la même pièce que tu vas retrouver sur toutes tes copines ou en soirée sur toutes les autres personnes, c'est oui.
Exactement, et en fait, on a eu ce constat aussi que la clientèle maintenant cherche quelque chose de nouveau, des espèces de niches, de marques de vêtements qui sont plus petites, qui réfléchissent différemment sur de l'upcycling.
Ouais, et une approche plus responsable.
Plus responsable, et surtout de se dire, voilà, moi, ma robe, personne ne l'a, ou alors peut-être 4 personnes dans le monde. Mmh. Et ça crée une exclusivité qui est pour nous vraiment sublime, parce que c'est quand même un luxe de pouvoir habiller une femme qui est la seule à porter cette robe.
Ouais, c'est clair.
Et pour nous, c'est vraiment un luxe qui est en même temps un choix pas de notre faute, parce que c'est en fonction des tissus qu'on trouve. Mais c'est quelque chose qui est vraiment super. Et
vous
on
l'avez tourné à votre avantage, pour le coup.
Ouais. On l'a tourné à notre avantage, ouais, exactement.
La contrainte est devenue l'avantage, quoi.
Ouais.
Du coup, j'imagine que vous travaillez avec des très petits stocks.
Des
si
très
vous faites en
stocks
fonction de ce qui est disponible.
Exactement.
Donc et ça aussi, c'est une nouvelle approche hein, de la mode.
Exactement. Et surtout, on marche en collection capsule. Donc, c'est-à-dire qu'on crée vraiment en fonction de ce qu'on trouve, de ce qu'on a, et sur des petites quantités. Donc, on est vraiment à notre rythme pour le moment. Mm. Quand on peut se permettre, quand on a des tissus, on crée. Et quand on peut pas, dans ce cas-là, on base vraiment tout sur la com, on shoot énormément, et puis on a rencontré beaucoup de gens qui nous ont permis de pouvoir faire beaucoup d'édito photos, beaucoup de production éditoriale, et ça aussi, du coup, c'est un super luxe aussi de notre part. Du coup, si on n'est pas en train de créer des vêtements, on est constamment en train de faire des prises de vue et de créer de l'image.
D'ailleurs,
ouais,
comment vous vous séparez ? C'est quoi le rôle de chacune d'entre vous ?
Alors, bah en fait, on va directement venir sur le parcours, je pense. Donc, toutes les trois, on a un parcours assez différent. Moi, personnellement, j'ai fait une école d'art en Suisse qui s'appelle l'ECAL. J'ai été diplômée en photographie et communication visuelle. Donc, c'est une école qui m'a permis autant de travailler dans le graphisme que dans la photographie. Et les filles, elles étaient dans la même école, à l'école Chardon-Savard à Paris, mais spécialisées dans différents domaines. C'est-à-dire que Héloïse était en stylisme et Zélie en modélisme. Donc, on se partage les tâches de cette manière-là, c'est-à-dire que Zélie va être plus sur le modélisme, donc vraiment sur le volume du vêtement, sur les aspects un petit peu plus techniques. Héloïse, vraiment sur le stylisme, les bureaux de tendance, donc les choix de couleurs, etc. Et moi, vraiment plus sur la communication visuelle, donc la direction artistique, la photographie, etc. Sauf que, évidemment, ce qu'on précise à chaque fois, vu qu'on est très jeune, on est quand même un gros cerveau qui fonctionne à trois. C'est-à-dire que, évidemment, quand il y a un choix d'image, un choix de communication visuelle, on est trois à prendre la décision. Pareil, évidemment, sur des choix de couleurs, des choix de coupe, de vêtements, on est vraiment un gros cerveau. Pour le moment, en tout cas, on peut se le permettre. Peut-être que plus tard, il va vraiment falloir qu'on réfléchisse indépendamment. Mais ce qui est assez chouette, c'est qu'on est surtout trois meilleurs amis depuis très très longtemps. Par exemple, Zélie, moi je la connais depuis ma naissance. Héloïse est arrivée pas très longtemps après. Donc,
c'est rassurant.
C'est rassurant. Et en fait, on a une confiance qu'on se fait entre nous qui est énorme. Mm. Et surtout qu'on sait exactement ce qu'on cherche, exactement ce qu'on aime en termes de communication visuelle, de couleur, de coupe. Donc, il n'y a vraiment jamais de confrontation sur ce genre de soucis.
Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. J'ai l'impression qu'on voit vraiment émerger une nouvelle génération de talents. qui ont de plus en plus envie d'entreprendre et de créer, vraiment pour avoir une liberté totale et pouvoir faire les choses selon leurs propres règles. Vous êtes passé brièvement, je pense, par des plus ou moins grosses maisons, de ce que tu avais l'air de dire, plutôt des grosses institutions. Comment tu t'expliques, toi, cette espèce de phénomène de plus forcément rêver de faire des grosses carrières hyper codées dans des grosses maisons, mais vraiment cette envie de se dire, allez, on se lance et on fait nos propres trucs.
Bah alors, pour ce qui est des grandes maisons, bon, je vais parler au nom d'Héloïse Zé, donc moi, parce que moi, j'ai jamais travaillé dans des maisons glues. Moi, je travaille surtout dans la photographie, mais en même temps, j'ai travaillé aussi pour des grosses boîtes de prod. Mais c'est quand même encore un autre niveau. Mais en tout cas, de ce que les films racontaient et de ce que je voyais, parce que bon, vu que c'est mes meilleurs amis, je les voyais tous les soirs sortir du boulot. Et c'était pas facile. C'est-à-dire que, par exemple, donc dans des très, très grandes maisons, il y a ce souci aussi où, en fait, il y a tellement de monde qui travaille dedans que ils se sous-délèguent des boulots au point où, on est là pour être styliste. Sauf qu'il y a tellement de gens, en fait. C'est une chaîne qui est tellement énorme que le boulot est très moindre. Il demande très, très peu de choses à faire. Pourtant, un salaire qui reste comme tout le monde, mais c'est juste que le boulot est vraiment... c'est juste un ennui total. Et au-delà de ça aussi, c'est juste... c'est une espèce de machine constante qui est vraiment énorme et qui est stressante et en même temps ennuyeuse. Et puis, c'est des maisons aussi qui sont tellement... institutionnel qu'il y a une possibilité de création qui est, mais quand ultra je dis limité. Minime, ouais, je suis gentille, c'est vraiment pas grand chose.
T'es plus dans l'exécution.
Exactement. Donc il y a très peu de possibilités et c'est là aussi cette énorme frustration qu'on avait aussi toutes les trois, c'est se dire en vrai, on pourrait continuer notre vie à travailler dans des maisons, c'est pas un problème, c'est vraiment pas un souci, et puis c'est même confortablement financièrement, etc. Parce qu'on n'aura jamais sauté l'étape de, en fait, nous, maintenant, on a envie de créer notre propre marque, sauter dans le vide, parce que c'est vraiment un saut dans le vide. C'est quand même quelque chose de très complexe d'ouvrir une marque de vêtements, d'ouvrir une entreprise, en fait, tout court. Et ce saut dans le vide, on l'a fait aussi pour l'amour de la création et la passion de l'image et de la mode, surtout.
Justement, vu que vous parlez un petit peu de l'équipe et que vous êtes trois, j'ai une question. Si tu devais décrire votre univers en trois mots? Petite question piège.
Question piège. J'espère qu'elles seront d'accord avec moi. notre univers en trois mots. C'est dur. Je partirais déjà sur quelque chose de pas forcément esthétique, mais de complicité. Fraîcheur et aussi féminité, parce qu'en effet, on est trois cofondatrices femmes. Et en effet, je pense que dans la communication visuelle, ça se sent. Et dans les formes de nos vêtements, ça se sent aussi beaucoup.
Bah super, justement, qui est la femme Umlaut?
Ah, ça a été de nombreux débats. on était partis, on avait même écrit presque un roman sur qui était la femme Umlaut, dans quel quartier elle traînait, comment elle marchait dans la rue, qu'est-ce qu'elle faisait à côté de son boulot. Je pense que nous, notre femme Umlaut, elle pourrait avoir un lien justement avec Irine Brockovich, qui est ce film où c'est cette nana qui commence, qui galère, mais qui en même temps, c'est cette féminité et ce pouvoir de femme qui est extrêmement fort dans tout le film. Et je pense qu'on a ce lien qu'on voulait donner justement à notre femme Umlaut, qui est justement quelque chose d'une espèce de fraîcheur, mais en même temps d'indépendance et de cri d'amour. D'ailleurs, ce mot, on l'a beaucoup répété dans nos phrases et dans nos business plans. Cette espèce de cri d'amour à la mode et aussi d'ailleurs à la fast fashion et à tout ce milieu, d'avoir vraiment cette ouverture d'esprit et de fraîcheur et de féminité qui est très présent et qu'on veut vraiment montrer dans nos modèles.
Ok. Tu me donnes la transition parfaite quand tu parles de fast fashion. À tort ou à raison, la mode green... elle peut être assez vite classée comme étant boring, en tout cas pas très fun, pas très stylé, plutôt classique, tu vois. Vous avez pour volonté de rompre avec ce stéréotype en créant justement un imaginaire très fort, une image très, très esthétique, très belle, très mode. C'est quoi vos inspirations?
Alors, en termes de marque de vêtements, en termes de... en inspiration, je pense que c'est bien de commencer aussi sur ce que tu disais, sur ce problème qu'on a de la vision du green, de la récup aussi, qui peut parfois avoir quelque chose d'un peu violent ou parfois même sale pour certaines personnes. C'est que En effet, quand on entend upcycling, on se dit « Ah, mais alors, c'est des tissus récupérés, mais c'est pas du neuf, mais alors, ça a traîné dans quelles mains ?» et ça peut avoir une valeur, justement, qui n'est pas associée au prêt-à-porter luxe, ce que nous, nous faisons. Et justement, nous, c'est un peu notre bataille et c'est aussi notre niche où on veut justement créer une marque de vêtements qui, en effet, est avec des tissus récupérés, mais l'amener à quelque chose qui est un peu supérieur de ce qu'on peut voir d'habitude dans l'upcyclé et de ne pas faire donc, du patchwork ou des choses, des coupes de tissus, etc.
Ouais.
Et de pouvoir amener, du coup, Umlaut dans quelque chose vraiment de luxe au point où parfois, on oublie cette histoire de tissus récupérés. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on ne le brande pas partout.
Ouais.
Parce que en fait, pour nous, c'est quelque chose qui est tellement en fait, obligatoire aujourd'hui, tellement important qu'on n'a même pas envie de baser notre marketing là-dessus. Parce que pour nous, c'est une évidence qu'aujourd'hui, quand on crée une marque de vêtements, quand on crée de nouvelles pièces, il faut prendre en compte, en effet, le souci de création, le souci de surproduction.
Mmh.
Et c'est pour ça que d'ailleurs, on plaque à part partout, parce que pour nous, c'est presque une évidence. Quoi.
Ouais, c'est une démarche hyper sincère que vous avez. C'est d'ailleurs assez... polémique, hein, ce sujet un peu de on placarde partout que la marque est green. Il y a un mot qui ressort souvent en ce moment, c'est cette histoire de greenwashing, de marques qui vraiment veulent se coller l'étiquette de responsable parce qu'on sait que ça vend et que c'est une problématique qui est tendance. Et c'est très dommage, mais du coup, qu'est-ce que vous pensez quand vous voyez des marques, alors je ne vais pas en citer forcément, mais des gros producteurs de vêtements type des Inditex, etc., qui se mettent à l'écolo, au green, etc., à créer des capsules. Qu'est-ce que vous en pensez?
Nous, ça nous fait doucement rire.
Ouais, c'est quoi les enjeux derrière tout ça?
Les enjeux du greenwashing ou de...
Des deux, en fait. D'un point de vue consommateur, c'est quoi l'impact que ça peut avoir? Est-ce que c'est encore une fois montrer aux consommateurs qu'on peut avoir du green pour pas très cher, parce qu'au final ça reste pas très cher les démarches qu'elles ont, mais du coup qu'est-ce qui se cache derrière? Pourquoi est-ce qu'on arrive encore à faire du green pas très cher? Est-ce que c'est nécessaire justement d'avoir du green pas cher pour changer les tendances, parce qu'au final c'est un des facteurs principaux quand t'achètes une pièce et que t'as pas forcément les moyens de dépenser des 1000 et des 100, de dire bon je veux me donner bonne conscience mais je veux que ça reste pas très cher. Il y a plein de choses.
Ouais. Mais surtout qu'en plus, dans le green, ça regroupe beaucoup de choses, parce que ça regroupe autant, par exemple, notre démarche qui est donc de la récupération de tissus. Mais après, il y a le green, par exemple, avec le coton bio, les tissus bio, le made in France. Donc, en fait, il y a énormément de branches dans ce green. Green, c'est vraiment le green, d'ailleurs, greenwashing, mais ça regroupe un mélange d'énormément d'informations sur, en effet, comment consommer mieux. Mais en effet, moi, quand je vois des marques comme H&M ou Uniqlo qui se permettent de dire que maintenant, ils font du green, mais derrière ce mot, en fait, on ne sait même pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce qui est green? C'est quoi? C'est le tissu, maintenant, il est bio, mais enfin, un champ de coton bio... Enfin, bon, moi, je n'arrive pas très bien à comprendre.
Et puis, comment sont traités aussi les travailleurs dans les usines?
Oui, exactement.
Parce que si c'est pour faire du coton bio avec des gens qui sont payés 1 euro par jour...
Exactement. Ouais, moi j'en ai déjà vu des vêtements justement H&M placés dans le corner green et il y avait toujours la petite étiquette made in Bangladesh ou je ne sais où. Donc c'est ça en fait, je sais pas comment eux ils arrivent à trouver leur green dans cette histoire. Mais en effet, mais en général ce greenwashing, il est particulièrement utilisé pour les grandes marques de fast fashion aussi qui eux qui sont vraiment terribles dans toute leur production et qui essayent de se donner une nouvelle image avec le green, mais qui sont profondément déjà enclins à faire des choses absolument pas correctes, autant pour l'environnement que socialement et humainement, en fait.
Ouais, parce que en soi, l'appel à consommer responsable, ça a été un appel quelque part à boycotter ces marques-là.
Ah oui, totalement. Ouais. Et en même temps, nous, c'est vrai que par exemple, on n'en parle pas du boycott qu'il faut avoir sur le fast fashion, etc. Parce qu'en effet, comme je disais, dans notre démarche, on n'est pas tout le temps là à en parler. Mais c'est sûr qu'on est complètement, dans cette démarche et qu'on essaie complètement d'avoir. Un discours là-dessus.
Je voulais un petit peu être pragmatique. Justement, par rapport à tout ce discours, comment vous sourcez vos tissus?
Alors, dans les endroits, comment on s'y prend?
Enfin, techniquement, le point de départ.
Bonne question. Alors, par exemple, je vais prendre l'exemple de la robe à Maya. Donc, c'est la robe un peu iconique de notre marque. On l'a dessinée. on savait déjà, par exemple, qu'on voulait avoir donc, ce corset en cuir et après la robe en tissu, de préférence en soie. Donc à partir du moment que le modèle a été dessiné, nous, on va justement chercher un peu partout des tissus. Donc c'est dans des associations, dans des institutions, dans certains magasins du sentier. Donc on se source sur beaucoup, beaucoup d'endroits différents. Et après, c'est juste des journées et des journées où on est les marchands de tapis. On est là partout à essayer de trouver la bonne couleur, le bon endroit. Et à partir de là, en fonction de ce qu'on trouve, on revient à notre atelier et on réfléchit aux associations de couleurs. Donc typiquement, tiens, ce cuir vert, il irait bien sur le corset avec ce tissu de soie couleur ivoire. Et en fonction de ça, en fait, avec des petits échantillons, on regarde quelle couleur va le mieux. Mais en effet, on a ce dessin de robe et on y va un peu à l'aveuglette en disant qu'est-ce qui pourrait bien marcher. C'est vrai que maintenant, de plus en plus, on réfléchit à des couleurs en amont et après on va chercher les tissus. Mais en fait, c'est très aléatoire. Ça dépend énormément de ce qu'on veut, de ce qu'on cherche. Et puis en fait, d'ailleurs, avec notre première collection, il y avait cette idée d'inspiration qu'on avait communément, qui était la Villa Magnan, qui est une villa à Biarritz, tenue par les parents de Zélie, donc l'autre cofondatrice, qui est un endroit du coup où on a beaucoup, beaucoup de souvenirs d'enfance, d'amitié, où on est là-bas constamment. Et en fait, là-bas, il y a une espèce de gamme de couleurs et une atmosphère qui est très particulière et très, très à elle. Et en fait, on a passé des jours à prendre en photo des endroits, des couleurs qui nous plaisaient. Et en fonction de ça, on a imprimé justement toutes ces gammes de couleurs. On regardait qu'est-ce qui pourrait marcher, qu'est-ce qui pourrait vraiment représenter donc ces couleurs de la Villa Magnan qui étaient dans notre esprit constamment. Et en fonction de ça, après d'ailleurs, c'est là où on allait chercher les tissus en gardant en mémoire toujours cette espèce d'idée de Villa Magnan et de vouloir vraiment arriver à représenter du coup la décoration et l'esprit de cette villa.
Très grande inspiration pour la marque, hein, du coup.
C'est une très grande inspiration. Ça a été d'ailleurs notre premier lieu de shooting pour notre campagne, qu'on a faite avec Lila Cardona, qui est une super copine à nous et qui nous a beaucoup aidé d'ailleurs dans ce projet. Et donc on est parti là-bas avec nos trois petits protos, on n'avait rien à l'époque. Et en fait, les photos se sont tellement bien passées parce qu'en fait, les robes représentaient tellement bien le lieu que dès que Lila marchait dans l'espace, c'était juste une cohérence qui était juste incroyable. Il y avait presque, c'était moi qui faisais les photos et j'avais presque rien à faire parce que tout était parfaitement cohérent et en cohésion. Et c'est là où on s'est dit d'ailleurs, je crois qu'on a vraiment réussi la collection parce que
c'est beau, ça.
C'était exactement ça. Et surtout quand on arrive enfin à placer nos vêtements à l'endroit où on avait nos inspirations et que le match est juste parfait. Et Lila marchait aussi d'ailleurs très très bien avec le lieu et l'ambiance. Du coup, ça a été un espèce de match total qui a été vraiment réussi.
Donc il y a cette partie sourcing, mais j'aimerais bien savoir qu'est-ce que c'est une journée pour vous trois ou une semaine. Comment ça s'articule un petit peu la partie créative, même business ou en tant que jeune marque, à quoi ça ressemble?
Bon, après, on se départage beaucoup les tâches, heureusement. Mais c'est vrai que ça dépend aussi beaucoup des moments. Par exemple, on va avoir une vente, là, ça va être le méga rush. Donc moi, je vais me mettre comme une dingue sur la communication visuelle, à faire des visuels à fond. Héloïse, elle, va s'occuper de tout ce qui est donc de la production, de savoir qui va où, comment juste on articule, par exemple, une vente éphémère ou une vente particulière. Et Zélie travaille surtout avec Héloïse pour que la production se passe parfaitement. Et moi, je suis vraiment sur mon petit ordinateur pour faire la communication visuelle. Enfin, je dis ça parce qu'en ce moment, on est là-dessus depuis ce matin. Mais en règle générale, en effet, chacun a son petit point de remaniement. Donc moi, je m'occupe de l'Instagram quand même à fond. Donc je réfléchis aux posts, je réfléchis aux images qui vont être mises sur notre site autant que sur notre Instagram. Les filles, elles vont vraiment s'occuper du coup de la prod. C'est elles qui sont en contact avec notre atelier de confection d'ailleurs qui est à Paris. Donc on produit d'ailleurs tout en France, en Île-de-France même.
Okay.
Et en fait, du coup, chacune a vraiment son petit rôle d'avoir donc la partie vraiment production, la partie business aussi, comptabilité.
Les trucs on adore
rigolo,
ça.
On adore. Donc ça, j'avoue, moi, je m'en occupe pas du tout. C'est plutôt les filles qui sont là-dessus. Mais, et d'ailleurs, qui prend un temps fou.
Bienvenue en France.
Oh, Non, mais c'est drôle parce que quand nous, on vient de milieu d'école d'art, on nous a jamais appris ça. On
mais personne, hein, je te rassure, personne n'est formé pour ça.
Ouais, personne. Mais c'est ça, et c'est dingue parce qu'on s'est retrouvé à faire des tableaux Excel, de la comptabilité, des business plans. Mais d'ailleurs, c'est ça qui est hyper aussi enrichissant, c'est que jamais dans notre vie, on pensait un jour se confronter à ce genre de soucis. Mmh. Et c'est génial parce qu'en fait, on en apprend tous les jours parce que monter une entreprise, c'est hyper... c'est hyper enrichissant parce qu'on en apprend vraiment tous les jours sur le montage d'entreprise, les SAS, etc. Mais d'ailleurs, ça prend vraiment un temps un peu trop long sur notre créativité. Mais bon, ça, après, ça fait partie.
Ça fait partie.
Ça fait partie du job. Ouais. Et c'est ça qui est chouette. Ouais. Donc, c'est vrai que je dirais même 40% de notre journée parfois est...
Sur de l'administratif.
De l'administratif, des petites choses à régler, etc. Et après, l'esprit créatif, c'est où organiser un shooting, ou checker la prod, ou retoucher des photos, checker le graphisme. Et ça, ça prend aussi un temps considérable.
Ouais, vous n'êtes pas trop de trois et vous avez la chance d'avoir des profils qui sont hyper complémentaires.
Exactement, ouais, c'est ça. Et puis, et c'est vrai, moi, je me fais souvent la réflexion. On est trois à travailler et on travaille tellement, ça demande tellement de temps. Je félicite les marques où les gens ouvrent leur marque tout seul parce que à trois, c'est déjà vraiment tellement de travail.
Ouais. Je voulais juste vous féliciter.
Merci.
Déjà. Et particulièrement parce que vous avez lancé votre marque en 2020, une année un peu maudite. Ça a été pour vous un frein ou au contraire l'occasion de vous concentrer à fond sur le développement de la marque et peut-être même le moment idéal pour vous pour lancer ce projet-là?
Ça, c'est une hyper bonne question. Mais... je vais revenir à ce shooting de Villa Magnan qui était une semaine avant le confinement. Donc, en plus, j'avais tout shooté à l'argentique.
Ah ouais, donc c'est pas...
L'angoisse totale. Donc, on shoot, ça se passe hyper bien. Et on décide de sortir le compte Instagram dans le train en direction de Paris. Et en même temps, on était en train d'écouter les infos qui disaient genre, on va être confinés, c'est la fin du monde.
Oh, wow.
Et en même temps, on sortait le compte Instagram et on se disait, mais en fait, on sort un compte Instagram mais on va jamais pouvoir vendre de notre vie. Non, parce qu'à cette époque, c'était tellement l'incertitude, on savait rien.
Ouais.
Et donc, on a sorti le compte Instagram 2-3 jours avant d'être confinés. Risque énorme.
Punaise.
Sur le moment, en tout cas, on s'est dit risque énorme. Surtout qu'en fait, on s'est dit, mais si tout ferme, comment on va développer les photos? On n'aura aucune image à mettre sur notre Instagram. Donc bon, on a été dans des galères incroyables à se retrouver dans des labos photos un samedi à 2h du matin. Enfin bon, c'était n'importe quoi. Mais on a réussi à avoir toutes nos images à temps, Dieu merci. Et pour répondre à ta question, ça a été l'inverse d'un frein. Parce que ça a été un moment, en fait, où on avait tellement rien à faire de nos journées, enfin tout le monde, que ouvrir un compte Instagram au moment où tout le monde est sur son téléphone, ça a été une bénédiction pour nous.
Ouais, c'est une
aubaine. Parce que très vite, en fait, on a eu une base d'abonnés qui était conséquente. Très vite, les gens ont commencé à nous poser des questions. On n'avait même pas le site internet, on ne vendait même pas, on lançait juste des images sur Instagram de nos vêtements. Et encore, ces vêtements-là, c'était des protos, on n'avait pas grand-chose. Mais c'était juste, on balançait de belles images avec Lila et la Villa Magnan.
Vous avez créé de la désirabilité.
Exactement,
dès le départ,
exactement. Et en fait, c'était malgré nous, mais ça a super bien marché parce qu'on s'est retrouvé dans un système où les gens ne pouvaient pas acheter, mais ils voyaient des super belles robes, des super belles images. Ça a fait monter l'envie de tout le monde. Et on a sorti quoi, le Instagram, au déconfinement, donc 3 mois après. Et là, ça a été genre le launching parfait. Bon, on n'a pas pu faire d'événements ou quoi, mais on a senti que ça a pris une ampleur d'un coup parce qu'en fait, on a fait attendre les gens pendant 3 mois.
Mais elles ont pu porter les robes pour l'été.
Exactement, exactement, c'est ça. Mais donc, en effet, ça n'a pas du tout été un frein. Ça a été pour nous un moment idéal pour pouvoir communiquer sur notre marque et se faire une petite place dans ce milieu, quoi.
Qui est très difficile à obtenir.
Qui est très difficile à obtenir. Mais on l'apprend petit à petit, on marque notre terrain. Et d'ailleurs, c'est bien, je pense, de faire les choses petit à petit sans griller trop toutes nos cartouches, etc. Et en effet, ce confinement, non, nous a pas mal servi parce que ça nous a permis d'avoir du temps vraiment pour travailler sur la communication, le launching et d'avoir quelque chose qui a pété d'un coup et qui a fait que ça a marché.
Un double bravo.
Merci.
Justement, en tant que marque en plein développement, c'est quoi les leviers que vous utilisez, sur lesquels vous comptez pour votre croissance?
Alors, dans l'urgence, en fait, aussi, et c'est ça qui manque beaucoup parce que ça représente notre marque et nous, personnellement, aussi, c'est qu'on a tellement envie de faire de l'événementiel. Nous, on rêve, par exemple, depuis des semaines et des semaines et des mois de pouvoir faire enfin notre release party. On a déjà les lieux, on a déjà les DJ, la playlist, on veut tout sortir, vraiment faire la fête. On a même des idées de mise en scène théâtrale. Enfin bon, tout est déjà vraiment en tête et c'est ça, en fait, aussi pour nous, c'est qu'on n'a pas eu encore l'occasion de pouvoir... On est encore toute petite sur nos réseaux parce que malheureusement, on ne peut pas encore faire de gros événements.
Ouais, des gros happenings.
De gros happenings. Et nous, on attend que ça, d'avoir enfin le moment, le feu vert pour pouvoir faire une fête, inviter des journalistes, inviter du monde et qu'on puisse enfin rencontrer les gens à qui on vend, les journalistes, etc. Et ça, c'est pour nous, je pense, la priorité quand on va sortir de cette crise sanitaire. Et donc ça, c'est vraiment le plus important. Et en fait, petit à petit, mais ça se fait au fur et à mesure, c'est cette question de business angels. Donc ce mot vraiment très typique du milieu de l'entreprise. Mais
justement, j'ai une petite question à ce sujet. Financièrement, lancer une marque comme la vôtre, c'est combien, ou si c'est pas combien, qu'est-ce que ça représente?
Alors, on a commencé donc à zéro, c'est-à-dire qu'on n'avait rien. Toutes les trois, on a décidé de notre côté de mettre nos sous de côté qu'on avait de côté et de tout balancer pour la marque. Donc, prise de risque quand même assez conséquente. Et aussi, on a fait des petites levées de fonds.
Donc, Family and friends.
Ouais, love money, comme on dit. Et après, des gens qui avaient confiance en notre travail, etc. Donc, cette petite levée de fonds nous a permis de renflouer un peu les caisses en plus de notre argent personnel. Et dès qu'on avait cet argent-là, on a tout balancé dans de la prod, donc pour créer nos vêtements, donc encore prise de risque, parce que c'était quand même mettre tout l'argent qu'on avait de côté aussi. Ouais. Mais à un moment donné, c'est la prise de risque obligatoire à faire quand on crée une marque.
Une grosse prio donnée au produit.
Voilà, exactement. Ouais, ouais. Surtout parce qu'en fait, pour la communication visuelle, on a la chance d'avoir une photographe dans le groupe. Donc, par exemple, il n'y a pas ce souci-là de payer. Enfin, en communication visuelle, pour le moment, on se débrouille très bien parce qu'on est très, très bien entouré. Et aussi parce qu'on sait. Enfin, bon, c'est vraiment quelque chose sur lequel moi, j'arrive à gérer pour qu'on s'assoie des frais minimes. Mais en fait, la chose qui nous coûte pour le moment le plus, c'est vraiment donc la production pure des vêtements. Surtout que. Donc, comme ce que j'expliquais, on produit en France. Ça demande un gros budget. C'est vraiment très cher de produire en France. Mais on a vraiment envie de continuer comme ça. Donc, c'est vraiment des frais qui sont conséquents, mais qu'on veut vraiment faire pour nous. Et donc, ouais, les frais sont vraiment là-dedans. C'est constamment un investissement de notre part qui est à risque à chaque fois, mais qui marche et on s'en sort. On s'en sort tout le temps. Par exemple, entre les deux confinements, on avait pile poil le temps de faire une vente éphémère. Là, on a réussi.
Ça a renfloué les caisses un peu.
Mais incroyable, on a vendu. Mais c'est fou parce que dès qu'on fait des ventes, pour le peu qu'on a fait de ventes éphémères, mais on vend. Une nana essaie la robe, en fait, elle l'achète, c'est juste hallucinant.
C'est cool,
nous, c'est hyper satisfaisant.
C'est limite de la haute couture à prix prêt à porter.
Exactement. Ah ouais, et c'était juste un bonheur pour nous de pouvoir voir du coup toutes ces femmes porter ces robes qui, d'ailleurs, à chaque fois avaient des formes différentes, mais. Vraiment toujours des formes très différentes et à chaque fois ça leur allait si bien au point où elles craquaient à chaque fois. Donc ça, en effet, donc on arrive à survivre aussi en faisant des ventes. Là, on en fait une, on va en faire une bientôt. Donc c'est vraiment, on essaye constamment de pouvoir créer des petits événements de vente et après refaire de la production. Enfin, c'est vraiment un cycle constant, quoi.
De plus en plus de marques, justement, fonctionnent en capsule et pas une collection par saison comme avant. Et il y a beaucoup d'événementialisation justement de chaque capsule, de chaque release.
Exactement.
Ouais, les calendriers changent un peu. Ouais.
Les calendriers changent et c'est pour un bien parce qu'en même temps, ça nous permet de produire à notre rythme, comme je disais tout à l'heure, vraiment. Et je pense que c'est important parce qu'on n'est pas ce calendrier. En fait, ça devient plus stressant qu'autre chose.
Ouais, ça absorbe énormément.
C'est ça. Mais tout le temps, on reçoit des mails pour savoir alors du coup votre prochaine collection 2021 de hiver 2021. Et nous, à chaque fois, on doit expliquer. En fait, non, nous, on est en capsule. On produit quand on sait qu'on a quelque chose de bien et qu'on veut launcher quelque chose. Mais sinon, non, on est à notre rythme et c'est comme ça. Et en effet, je pense que c'est de plus en plus accepté. Ça l'est pas encore énormément, mais ça l'est de plus en plus. Et il y a surtout plein de marques qui le font. J'ai en tête comme ça Coralie Marabelle. Pour moi, c'est quand même une des pionnières dans ce fonctionnement. Et nous, on veut vraiment fonctionner comme ça. Et il n'est pas question pour le moment de se caler sur les calendriers.
Ok, justement, pour parler un peu de timing... Calendrier, entre le moment où vous avez cette première levée de fonds disons familiale et d'amis de Love Money. Et le moment où la marque est officiellement lancée, c'est à peu près combien de temps?
Bah, c'est drôle parce qu'on a passé peut-être 8 mois à trouver les bonnes robes, comment on voulait les faire. En vrai, on a été un peu lente parce qu'on avait très peur de se lancer. Je pense que c'est surtout ça. On s'est
ça
jamais
fait très très peur. Hein.
Ouais, mais on s'est jamais osé le dire. Mais je pense que si au début ça a pris autant de temps, c'est parce qu'on avait très peur. Sauf qu'un jour, on s'est dit c'est bon, on fait une levée de fonds. C'est bon, on avait les sous. On s'est dit ok, maintenant on rencontre un atelier de confection et juste dans 2 mois, on a notre production quoi. Et ça s'est passé comme ça.
Ça a mais été c'est... quoi l'élément déclencheur du coup?
Un coup de pression qu'on s'est fait de notre part.
Ouais.
Ou genre là, on s'est dit, bon, bah, attends là.
Un coup de pied, quoi.
Ouais, c'est bon, ça fait 8 mois qu'on regarde nos pieds, là, on y va. Non, j'exagère, on bossait un max, mais c'était de manière beaucoup plus lente. Et quand on a rencontré, en fait, du coup, la personne qui fait nos vêtements, enfin, l'atelier de confection, qui est d'ailleurs incroyable, qui fait tous nos vêtements, là, c'est allé, mais d'une vitesse juste incroyable. En 3 mois, même pas, on avait tous nos vêtements, tout était créé, quoi.
C'est fort. Ouais. Sans regret, du coup, vous avez. Est-ce que vous feriez des choses différemment avec un petit peu de recul?
Non. Mais même, encore une fois, sans regret de l'avoir sorti 2 jours avant le confinement, sans regret d'avoir sorti le site internet 4 mois après avoir sorti Instagram. Vraiment, pour le moment, je trouve qu'on va en faire des erreurs, c'est sûr. Et ça se trouve, on est déjà en train d'en faire, on s'en rend pas encore compte. Mais pour le moment, juste, on est à tâtons, mais en même temps, on fonce bien droit, quoi. On y va à fond et. Et on prend de plus en plus de risques, chose qu'on faisait pas avant, mais c'est des risques, à mon avis, qui sont assez beaux. Et je suis assez fière de nous aussi, de notre côté, de commencer justement à fonctionner, en effet, comme une entreprise de prise de risques, financièrement et aussi créativement. Et en fait, plus on va se permettre ce genre de choses, plus je pense que Homelot va fleurir et grandir, quoi.
Ouais. Tu parlais de ce beau moment qu'a été pour vous de voir les femmes porter vos produits. Ce serait quoi pour vous les prochaines belles consécrations? Qu'est-ce que vous attendez pour la suite?
En termes de nouvelles créations?
Non, ou... je parle plutôt vraiment des gros marqueurs pour la marque. Est-ce que pour vous, une belle réalisation, c'est d'être référencé dans un grand magasin, d'être porté par X ou Y célébrité, de
bonne question.
Je sais pas.
Ouais, bah si, déjà, en effet, on commence à avoir petit à petit des célébrités qui nous appellent pour porter Homelot. Et ça, c'est vrai que c'est un plaisir, surtout que je dis pas encore les noms, mais les premières célébrités qui nous appellent, étonnamment, dans ce qu'on se disait de qui allait être les premières, on n'avait vraiment pas tort, c'était vraiment ça, on s'était vraiment pas trompé, donc ça veut dire qu'on arrive vraiment à toucher les styles de célébrités qui collent vraiment bien à notre marque. Enfin bon, pour le moment, on touche juste en tout cas sur le genre de personnes qu'on veut habiller. Et en effet, moi, vraiment, en tout cas, ces personnages, je sais pas pour les filles, mais vraiment, cet événement où on a vu ces femmes différentes porter nos vêtements, ça a été tellement un joli moment aussi, et ça donne tellement envie de voir encore plein de femmes différentes, de corps différents et de genres différents, de porter nos vêtements, parce que nous, c'est juste une fierté énorme de pouvoir se dire qu'il y a plein de femmes qui se sentent à l'aise dans leur corps avec nos vêtements, et ça, c'est juste pour nous la consécration, quand on parle de féminité, mais une consécration qui est énorme pour Homelot.
Vous avez une vision très inclusive de la mode par ce côté aussi sur mesure que vous pouvez vous permettre d'avoir.
Ouais, exactement. Ouais, exactement. Et en effet, donc les prochaines choses qui pourraient faire fleurir aussi Homelot, c'est encore une fois, je parle d'événements, mais c'est aussi pouvoir toucher un grand nombre de personnes et de pouvoir vraiment s'ouvrir à plein de genres, plein de facettes différentes qu'on n'ose même pas imaginer nous de notre côté.
Donc ça passe par l'étape de levée de fonds, justement?
Pour le moment, on va pas refaire de levée de fonds. Je pense qu'on s'en sort assez bien en termes de vente et de ce qu'on arrive à récupérer en sous en fonction de notre production. Mais en effet, si on va commencer à refaire de l'événementiel, de la relation puis du RP, etc., en effet, il va falloir renflouer les caisses pour ce genre d'énormes événements.
S'il y a des business angels qui nous écoutent,
On est là. Ouais, bah non, c'est clair. Mais non, c'est sûr qu'en effet, il va y avoir à un moment donné. Parce que je disais, par exemple, ce qui nous coûtait le plus cher en ce moment, c'était surtout la production. Et c'est parce qu'on n'a pas encore été amené à, en effet, dépenser pour de l'événementiel, de la communication, parce que tout simplement, on ne peut pas.
Actuellement,
c'est compliqué, quoi.
D'ailleurs, quels sont vos marchés clés? C'est juste la France, c'est l'Europe, c'est d'autres pays, c'est...
Alors, en fait, nous, donc, on vend particulièrement, quasiment exclusivement sur Internet, sur notre site Internet. Et donc là, on commence en effet à faire de plus en plus de pop-up stores. Mais grâce à Internet, on commence à vendre pas mal à l'étranger. On a eu pas mal de ventes aux États-Unis, on en a eu en Suède, on en a eu aux Pays-Bas, pas mal aux États-Unis d'ailleurs, je répète, vraiment beaucoup. Et non, en vrai, étonnamment, on touche de manière vraiment internationale.
Au quotidien, c'est quoi le mot d'ordre que vous vous appliquez? Alors, vous travaillez en équipe, une toute petite équipe, vous avez énormément de choses à faire pour rester motivé, dynamique. Est-ce qu'il y a un truc que vous vous répétez? Est-ce qu'il y a une espèce de motto qui guide la marque?
Bah, alors, je pense que chacune, là, pour le coup, va avoir sa réponse différente.
Ouais.
Mais moi, de mon côté, pour la question communication visuelle, moi, mon mot d'ordre, c'est de jamais faire un truc dégueulasse sur notre communication. Non, mais
c'est pragmatique.
Là,
mais moi, j'ai
coup.
Tellement peur un jour qu'on mette quelque chose qui n'aille pas, que ça soit d'un point de vue graphisme ou de l'image, d'une retouche qui ne va pas. Et moi, ça, c'est quelque chose, je pense que je me... Et ça, c'est vraiment un leitmotiv de la journée, ouais. Ne pas faire une bêtise en communication visuelle et que tout soit le plus propre et le plus bien fait possible. Donc c'est vrai, parce que moi, en même temps, c'est ma partie de boulot, donc j'en parle personnellement, mais vraiment de toujours pouvoir être dans la hauteur de ce qu'on fait depuis le début. Parce que c'est vraiment important, on met la barre haute. Mm. Et les gens, à chaque fois, nous disent « Mais c'est dingue, c'est super beau, vos robes, vos visuels, etc. » Donc, ça fout la pression parce qu'on se dit « Les gens aiment, mais il faut pas qu'on déçoive. Il suffit d'une mauvaise image, d'un mauvais vêtement. » Et là, on a l'impression que tout s'écroule. Donc, c'est toujours pouvoir être le plus créatif possible, le balancer le plus d'images possible et d'être vraiment... sur quelque chose de constamment créatif et innovant. Quoi.
Ouais, quand on commence aussi fort, il faut une rigueur après sur le long terme.
Ouais.
Quoi.
Et ça, c'est une pression qui est assez lourde.
Ouais, la constance.
Ouais, exactement, la constance.
On a l'habitude de finir les podcasts avec des petites questions gimmicks. On va vous en poser quelques-unes et tu réponds du tac au tac. C'est cool.
Oh, c'est dur ça.
Non,
ouais,
c'est
okay,
des
okay.
questions simples. Tailleur ou jogging?
Tailleur.
Passé ou futur?
Futur.
Biarritz ou Paris?
Oh, Paris.
Insta ou TikTok?
TikTok.
Série ou film?
Série.
Vogue ou 032C?
032C.
Ah.
Marc, si tu nous écoutes. Franchement, on était ravis de vous avoir.
Ouais, c'était un plaisir de partager. Ouais, merci de nous avoir accueillis.
Merci vraiment d'avoir partagé parce que le but de ce podcast, c'est d'inspirer les gens.
Ouais.
Et voilà, c'est pas tout le monde qui est prêt à donner des insights.
Non, et c'est surtout, j'aimerais bien juste finir par ce petit point. C'est que peut-être que je ne l'ai pas aussi répété, mais donc avec les filles, on est très jeunes. Ça fait vraiment 2 ans qu'on est sortis de l'école. On est vraiment des petits bébés du milieu. Mais je pense que plus on le fait tôt, plus on saute tôt, mieux c'est. Et je peux juste conseiller aux gens qui écoutent de le faire le plus tôt possible et en fait de ne pas avoir peur comme nous on a pu avoir sur seulement 8 mois, mais quand même, et de juste se lancer. Et en effet, il y a ces problématiques de ces problèmes financiers, etc. Mais il y a des solutions qui se trouvent et il faut juste vraiment, vraiment le faire parce que c'est un tel bonheur une fois qu'on est dedans que juste foncer quoi.
C'est son bébé.
Ah mais c'est notre bébé, c'est exactement ça. C'est exactement la sensation.
Super, merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci.